Feu ma belle-sœur, par Frank R. Stockton. J'avais décidé, tout jeune encore, de me vouer à la littérature, et j'avais parcouru en conscience le cycle d'études préparatoires qui devait me lester pour la profession de mon choix. Des années de dur labeur étaient venues ensuite, labeur la plupart du temps improductif, mais j'étais enfin arrivé à posséder ce qu'on pourrait appeler une jolie clientèle. Mes articles, qu'ils fussent plaisants ou sévères, d'intérêt général ou de pure imagination, étaient accueillis avec une faveur marquée par plusieurs revues auxquelles je collaborais régulièrement. Ces productions n'excitaient pas l'enthousiasme du public. Elles ne m'apportaient ni la célébrité ni la fortune, mais comme elles étaient toujours acceptées, elles me valaient un revenu à peu près fixe et plus que suffisant pour me faire vivre dans une large aisance. C'est alors que je me mariais. J'étais fiancé depuis plus d'une année, mais j'avais voulu être tout à fait sûr de mes ressources et de ma position avant de me mettre en ménage. Ceux de mes lecteurs qui ont le bonheur d'être mariés me comprendront si je parle des enchantements de cette période idéale, vulgairement appelée lune de miel. Ils savent qu'à aucune autre époque de la vie, les fleurs n'ont autant de parfums, le soleil autant de rayons. Ils se rappellent la douceur de l'air, la pureté inaltérable du ciel, la beauté des fruits, l'excellence des cigares. Dans cette chaude et pénétrante atmosphère d'affection partagée, l'âme s'élève tout naturellement au-dessus de son niveau ordinaire. Elle acquiert une intensité de vie, une finesse de perception, une richesse de sentiments inconnus jusqu'alors. Tel fut mon cas. Représentez-vous un modeste petit vin transformé tout à coup en un champagne pétillant. C'est dans cette joyeuse effervescence que me vint l'idée d'une charmante nouvelle. Le sujet en était fort original et si intéressant que je me mis à l'œuvre avec enthousiasme. L'histoire terminée, je la lus à ma femme, dont le ravissement et l'admiration ne connurent point de bornes. Son émotion était même si communicative qu'elle me gagnait par instants et qu'un léger brouillard obscurcissait les lignes du manuscrit. La lecture achevée, Hilaria s'écria « Ta fortune est faite, mon ami. On n'a rien écrit d'aussi touchant, d'aussi pathétique depuis la Graziella de Lamartine. » Dès le lendemain, j'envoyai mon récit à la revue qui m'imprimait le plus souvent et à laquelle je réservais d'habitude mes meilleures productions. Au bout de quelques jours arriva une lettre fort élogieuse. Je n'en avais jamais reçu de pareille. L'éditeur se déclarait enchanté. Ses collaborateurs et lui avaient été entraînés par le charme et l'intérêt du récit. Gibson même, si indifférent d'ordinaire, avait voulu le lire, et ce vieux sceptique, qui prétendait n'avoir jamais versé une larme depuis la dernière correction paternelle, quelque 40 ans auparavant, cet impitoyable railleur avait été visiblement ému. Inutile de dire que si la chose eût été possible, cette lettre aurait fait notre ciel plus radieux encore, nos fleurs plus belles, qu'elle aurait rendu plus fin, plus exquis, le goût des fruits et l'arôme des cigares. Et ce fut bien autre chose, lorsque la nouvelle rencontra dans le public le même accueil sympathique, la même admiration enthousiaste. Les grands journaux en parlèrent avec éloge. Mes amis ne tarissaient pas. De tous côtés m'arrivaient les félicitations les plus chaleureuses, les témoignages les plus flatteurs. C'était un succès, un vrai, un beau succès. J'avoue, bien que je ne fasse pas en général grand cas de ce que j'écris, ma femme me reproche même d'en faire trop peu de cas, j'avoue que j'étais assez fier. Un pareil succès, s'il ne faisait pas ma fortune, comme Hilaria l'avait naïvement prédit, devait au moins faciliter singulièrement ma carrière d'homme de lettres. Mais un mois s'était à peine écoulé qu'il m'arriva quelque chose de fort extraordinaire. J'avais composé une autre nouvelle, je l'avais envoyée à la même revue. Quelle ne fut pas ma stupéfaction lorsque l'éditeur me la retourna en me disant que l'histoire n'était certainement pas mauvaise, mais trop inférieure à la dernière. « Ce n'est pas le moment, ajoutait-il, de reculer, ni de compromettre le grand et légitime succès que vous a valu feu ma belle-sœur. » J'étais si peu habitué à voir refuser mes manuscrits que je dus pâlir à la lecture de cette lettre. Mais je n'en dis rien à Hilaria. Pourquoi jeter ce fâcheux grain de sable sous la roue de notre bonheur conjugal qui tournait si doucement? J'expédiai le manuscrit à une autre revue, et vous pouvez vous figurer ma surprise quand il me revint, accompagné d'un billet dans lequel l'éditeur le prenait sur un ton légèrement offensé. « Je ne me décide pas facilement à refuser quelque chose de vous, » écrivait-il. « Envoyez-moi un récit dans le genre de feu ma belle-sœur, il sera accepté sans la moindre hésitation, vous le savez bien. » Force me fut alors de dire la chose à ma femme. Elle se montra aussi étonnée, mais moins scandalisée que moi. « Relisons cette histoire ensemble, » me dit-elle, « et voyons ce qui peut y manquer. » Et quand nous eûmes fini, « Elle est très intéressante, tout aussi bonne certainement que la plupart de celles que tu as publiées, mais elle ne vaut pas, feu ma belle-sœur. »« Cela va sans dire, » répondis-je. « Feu ma belle-sœur est une nouvelle à part. Un pauvre auteur n'a pas tous les jours de ces inspirations-là. Mais quant à ce récit, il doit avoir un point faible qui nous échappe. Peut-être mon récent succès m'a-t-il fait apporter, sans que je m'en doutasse, un peu de négligence dans la composition. « Je ne le crois pas, » fit Hilaria. « Quoi qu'il en soit, continuai-je, je vais le laisser de côté et me mettre à un autre. » Avec le temps, ce nouveau travail fut achevé et je n'en étais pas trop mécontent. Je l'adressai à ma revue favorite, qui le garda quelques semaines, et puis me le renvoya avec une note de la rédaction ainsi conçue, absolument impossible. La livraison où apparut feu ma belle-sœur continuait à être demandée. « Vous ne voudriez pas désappointer les nombreux lecteurs qui attendent avec impatience une autre nouvelle signée de votre nom. » Sans me laisser décourager, j'expédiai successivement le manuscrit à 4 éditeurs qui tous me le retournèrent avec des observations dont la teneur pouvait varier, mais qui revenaient toujours à ceci. « Ce n'est pas ce que nous serions en droit d'attendre de l'auteur de Feu, ma belle-sœur. » Un journaliste m'ayant écrit sur ces entrefaites pour me prier de lui donner une histoire de vacances dont il m'indiquait le genre et les proportions, je m'empressai de déférer à son désir et je lui envoyai un récit dans lequel j'avais scrupuleusement tenu compte de ses instructions. La réponse ne se fit pas attendre. « Je m'étais adressé à vous sur la foi de la nouvelle qui a rendu votre nom populaire, et je vous avoue que je suis fort désappointé. » À la lecture de ces lignes, la rage qui m'emplissait le cœur s'exhala en vives imprécations contre ma feu belle-sœur. Ma femme me regardait tout étonnée. « Excuse-moi, lui dis-je, mais cette maudite histoire sera ma ruine. Je n'arriverai pas à faire imprimer une seule ligne avant qu'on l'ait oubliée. On ne l'oubliera jamais, » dit Hilaria, les larmes aux yeux. À quoi bon rapporter en détail mes efforts et mes démarches pendant les mois qui suivirent ? La malheureuse histoire de feu ma belle-sœur avait donné une si haute idée de mes capacités que mes anciens patrons refusaient absolument d'accepter quelque chose de moindre valeur. Quant aux journaux pour lesquels je n'avais pas encore écrit, ils repoussaient comme une insulte l'offre de toute production inférieure à la trop fameuse nouvelle. Avec tout cela, mes ressources s'épuisaient. La pauvreté frappait à ma porte et, je l'avoue, son masque blême me faisait peur. Que faire ? Arriver par un suprême effort à produire une œuvre égale à celle qu'on me jetait sans cesse à la tête, comme si je pouvais me marier de nouveau chaque fois que je commençais un manuscrit. « C'est affreux, tout simplement, » disait ma femme. « Si j'avais jamais possédé une sœur et que cette sœur fût morte, je croirais que c'est ma faute. Ce n'est certes pas ta faute, mais ce n'est pas la mienne non plus. Je n'ai voulu tromper personne. » Je n'ai jamais essayé de faire croire que je pouvais me maintenir à cette hauteur, et c'est folie de l'exiger. Te représentes-tu les protecteurs de Raphaël, l'écrasant sous les mérites de sa Madone de la chapelle Sixtine, et refusant d'acheter ses autres tableaux sous prétexte qu'il n'atteignait pas à la perfection de ce chef-d'œuvre? La mort aurait fauché l'artiste bien plus jeune encore. Pardon, interrompit ma femme, experte en ces matières. La Madone de la Sixtine est une des dernières œuvres du maître. « Fort possible, » répliquai-je, « mais s'il s'était marié, il l'eût peinte beaucoup plus tôt. » C'est vers cette époque que je rencontrai par hasard un homme que j'avais beaucoup connu lors de mes débuts littéraires. Barbel pouvait avoir 50 ans, mais il paraissait plus âgé. Tout gris de barbe et de cheveux, avec des vêtements de même nuance ne rappelant que de fort loin le noir primitif, il me faisait songer, malgré moi, à ces appartements qui y sont depuis longtemps alloués et qui ont en urgent besoin de réparation. Mais, si l'âge pesait lourdement sur lui, son regard était resté bienveillant, et il m'accueillit avec beaucoup de cordialité. « Que signifie cet air lamentable ? » dit-il. « Je ne vous croyais pas l'humeur sombre. » Je ne voulais rien cacher à Barbel, qui m'avait rendu plus d'un service et qui avait le droit de connaître mes affaires. je les lui exposai donc. « Voulez-vous venir avec moi ? » demanda-t-il lorsque j'ai fini. « J'ai quelque chose à vous dire, mais je voudrais vous le dire chez moi. » Je le suivis dans sa chambre, tout au haut d'une vieille maison très sale, dans une rue étroite, où ne devait guère pénétrer en fait de véhicule que la brouette du balayeur et la charrette des revendeurs de légumes. « Pas précisément aristocratique, ce quartier, » fit Barbel, « mais il rappelle les villes italiennes où les palais s'avancent amicalement les uns vers les autres et semblent fraterniser par-dessus les misérables rues. » Sa chambre était à mon sens encore plus triste que la rue. Sombre, poussiéreuse, avec des toiles d'araignée un peu partout, des chaises sans dossier, des livres délabrés sur une table boiteuse et dans un coin, le lit étroit recouvert d'un tapis fait de grands journaux collés ensemble. « Rien de meilleur pour une couverture, » me dit Barbel, qui avait suivi mon regard. « C'est chaud et léger. Il faut seulement avoir soin de ne pas prendre des journaux papier trop raides. » Dans la partie éclairée de la chambre, près de l'unique fenêtre, j'aperçus une petite meule posée sur une table. Barbel continua à me faire les honneurs de son appartement. « Ce coin là-bas me sert de cuisine. Vous verriez le fourneau si j'allumais la chandelle qui se trouve à côté. » Mais à moins que vous n'y teniez particulièrement, j'éviterai cette dépense inutile. Les vieilleries et les curiosités ne manquent pas non plus chez moi. Seulement, il vaudrait mieux, j'imagine, les jeter au feu que les offrir à un antiquaire. Toutefois, voici ce que je tenais à vous montrer, et de la main il indiquait un petit cadre de bois suspendu au mur, tout près de la fenêtre. Sous le verre terni par la poussière, on apercevait une feuille imprimée. C'est une page de la Sauterelle. Vous vous rappelez peut-être ce journal humoristique très en vogue il y a 5 ou 6 ans. « Si je me le rappelle, » m'écriai-je, « je n'oublierai jamais vos énigmes de l'enclume qui furent publiées. Cette charge, si amusante et spirituelle, m'a souvent diverti, et j'y fais encore allusion en maintes circonstances. » Barbel me regardait sans rien dire. Au bout d'un moment, il leva le doigt vers le petit cadre et, lentement, « Cette page contient précisément les énigmes de l'enclume. Je l'ai mise là afin de la voir en travaillant. C'est la dernière que la Sauterelle ait jamais imprimée de moi. Cette page a fait mon malheur. Comment j'étais arrivé à l'écrire, je n'en sais rien. Une de ces idées lumineuses qui ne vous viennent pas deux fois. En tout cas, ce que j'essayais de publier ensuite fut honni, conspué de la belle manière. D'un bond, la Sauterelle s'était mise hors de mon atteinte. Et je tombais de misère en misère jusqu'à mon métier actuel, qui consiste à affiner des épingles. Cela me procure du pain, du café et du tabac, quelquefois des pommes de terre ou de la viande. Dernièrement, pendant que j'étais au travail, un orgue de barbarie vint jouer sous ma fenêtre la sérénade du Trovatore. Les notes familières de cette vieille mélodie évoquèrent dans mon esprit les scènes du passé, alors que, écrivain à succès, j'avais de beaux habits, un bel appartement, que j'allais à l'opéra, et que l'avenir m'apparaissait comme une succession de fêtes brillantes ou d'acclamations enthousiastes. Tandis que je revivais ainsi les joies d'antan, et que mon âme s'exaltait à l'attouchement magique du souvenir, je faisais à mes épingles, auxquelles je ne songeais guère, des pointes si fines, si égales, si minces, qu'elles auraient traversé la plus vaporeuse dentelle sans y laisser la moindre érosion. Des pointes comme je n'en avais jamais fabriquées. Revenu à moi-même, après le départ de l'orgue, à mes toiles d'araignée et mes moisissures, je contemplai les épingles et j'eus un frisson. Les prendre toutes, les jeter dans la rue, ce fut l'affaire d'un instant. C'était une perte sèche, mais je conservais mon gagne-pain. Barbel s'était tu. Il reprit bientôt. « Jeune homme, je n'ai plus rien à vous dire. Vous avez vu ma meule ? Vous avez vu la page encadrée, rentrez chez vous et réfléchissez. Moi, j'ai une grosse épingle à finir avant la nuit. » Ce que je venais de voir et d'entendre n'était pas fait pour m'égayer. Retrouver dans un pareil état de pauvreté et de misère ce Barbel que j'avais connu marchant d'un pas ferme sur la route du succès, le trouver réduit au métier de finisseur d'épingle, cela me donnait à penser. Je rentrais fort préoccupé de l'avenir, qui m'apparaissait sous les plus sombres couleurs. Hilaria écouta l'histoire de Barbel avec un vif intérêt et quelque tristesse. « J'ai bien peur, me dit-elle, si nos affaires ne s'améliorent pas promptement, que nous ne soyons obligés d'acheter 2 petites meules. Je pourrais t'aider à cette besogne-là, ce serait une consolation. » Nous causâmes longtemps, cherchant à découvrir ce qu'il convenait de faire de nos tristes circonstances. Je ne croyais pas le moment venu d'aller demander de l'ouvrage à la fabrique d'épingles, mais il fallait absolument trouver un moyen quelconque de gagner de l'argent. La pensée d'abandonner la carrière des lettres fut la première qui se présenta à notre esprit. Seulement, il ne devait pas être facile d'obtenir, sans aucune initiation préalable, un travail assez rémunérateur pour nous faire vivre. Il m'en coûtait d'ailleurs, je l'avoue, de déposer ma plume pour jamais, d'abandonner au fond de mon encrier tant de fictions gracieuses, touchantes ou comiques, qui s'y étaient reflétées et que je comptais bien voir s'animer un jour ou l'autre sous mon souffle créateur. Il me semblait dur de renoncer à une vocation que j'envisageais comme l'œuvre de ma vie. Le reste de la journée et une partie de la nuit se passèrent à réfléchir, à discuter, sans que nous fussions arrivés à conclure. Le lendemain, je décidai de me rendre au bureau de la revue qui m'avait si souvent imprimé avant le jour néfaste où je m'étais avisé de devenir célèbre. Je demandai un entretien au rédacteur en chef et je lui exposai franchement ma situation. Un excellent homme, cet éditeur. Il m'écoute avec bienveillance, avec une sympathie visible, puis il me dit « Comme nous vous l'avons écrit, si vos derniers manuscrits ont été refusés, c'est uniquement parce qu'ils ne répondaient pas à ce que le public attend maintenant de vous. On demande, de toutes parts, quand nous publierons une autre nouvelle par l'auteur de Feu ma belle-sœur. Il nous a donc semblé, et il nous semble encore, qu'il serait extrêmement fâcheux pour vous de porter atteinte à la réputation bien méritée que vous venez d'acquérir. Mais je comprends, ajouta-t-il avec un bon sourire, que votre gloire naissante ne vous servira pas à grand-chose si vous devez mourir de faim au moment même où elle commence à vous inonder de ses rayons généreux. Généreux, m'écriai-je, absolument pas, dites plutôt brûlant, desséchant. Après un moment de silence, il reprit. Nous permettriez-vous de donner vos dernières productions sous un autre nom que le vôtre? J'y verrai plusieurs avantages. En premier lieu, cela apporterait de l'eau à votre moulin sans compromettre votre réputation. Ensuite, le public n'aurait rien à dire et nous nous tiendrions nous-mêmes pour satisfaits. À l'ouïe de cette proposition, je me levai, transporté de joie, pour serrer avec reconnaissance les mains de mon interlocuteur. « Oh, la réputation, dis-je, c'est une fort belle chose, mais cela ne remplace ni le vivre ni le couvert. C'est de grand cœur que je me présenterai au public comme un inconnu, comme un débutant. Ce ne sera pas pour longtemps, j'en suis persuadé. Vous nous donnerez bientôt une œuvre égale à feu ma belle-sœur, égale ou supérieure. » Je m'éloignai sur cette bonne parole. Tous les manuscrits que j'avais à la maison furent envoyés à mon brave ami l'éditeur et parurent peu à peu sous le pseudonyme de Jean Darmstadt. Un arrangement similaire avec d'autres revues me permit une collaboration régulière dont l'honneur revenait au dit Jean Darmstadt. Le temps s'écoulait doucement, l'aisance était rentrée au logis, et un matin de joyeuse mémoire, ma femme me donna un fils. Les personnes qui prennent la peine de réfléchir se sont certainement demandé, sans arriver peut-être à résoudre la question, si la période la plus heureuse de l'existence est celle qui vient immédiatement après le mariage ou celle qui suit la naissance du premier enfant. Tout ce que je puis dire pour ma part, c'est que je ressentis, à l'arrivée de mon fils, les mêmes émotions délicieuses, la même plénitude de vie et de pensée que j'avais déjà éprouvée. Et comme la première fois, cette intensité d'émotion se transforma en activité cérébrale et me fournit le thème d'un récit que je me mis à écrire sans plus tarder. Un soir, notre baby pouvait avoir 6 semaines et dormait paisiblement dans son berceau. Un soir donc, devant un bon feu, dans notre petit salon bien clos, à la douce clarté d'une lampe recouverte d'un abat-jour rose, je lus ma nouvelle histoire à ma femme. J'avais à peine fini qu'elle se jetait dans mes bras. « Je suis fière de toi, » s'écria-t-elle, « plus fière que je ne l'ai jamais été. Cette histoire est magnifique. Feu ma belle-sœur n'était certes ni plus touchante ni plus belle. » Ces derniers mots n'étaient pas sortis de sa bouche qu'un frisson nous secouait tous les deux. Son enthousiasme s'éteignit soudain, comme le plaisir que j'avais à m'entendre louer. Elle s'éloigna de moi et nous restâmes à nous regarder, pâles, sans rien dire, conscients, hélas, de la triste vérité. Cette nouvelle était aussi bonne que feu ma belle-sœur. Nous demeurions immobiles et muets, comme si une main de fer se fût appesantie sur nous, ou que les pointes extra-fines des épingles de barbel nous eussent transpercé l'âme. Je voyais se dresser devant moi le fantôme menaçant d'une inévitable ruine, d'une ruine où sombreraient à la fois mes espérances paternelles et mon bonheur domestique. Ma femme, se rapprochant, prit ma main glacée dans les siennes. « Soyons braves, dit-elle, un affreux malheur nous menace, mais prends courage, mon ami, arme-toi d'une fermeté invincible. » Je lui répondis par un serment de main, et nous n'ajoutâmes rien ce soir-là. Le jour suivant, je pris mon manuscrit, je l'enveloppai soigneusement de papier fort, et j'introduisis le paquet dans une solide petite boîte de fer blanc achetée tout exprès, et dont je fis souder le couvercle hermétiquement. Cela fait, j'allai chercher au grenier une grande cassette qui avait appartenu à un marin de ma famille et qui l'avait servi de coffre-fort. La cassette était lourde, avec des cercles de métal et de serrures compliquées. J'appelai ma femme, et après lui avoir expliqué ce que contenait la boîte de fer blanc, je déposai celle-ci dans la cassette que je fermai à double tour. Ma femme avait suivi l'opération d'un œil ardent. La figure pâle et contractée, mais aussi, me semblait-il, avec une lueur d'espoir renaissant. « Ne crois-tu pas ? » fit-elle, lorsque je mis la clé dans ma poche pour aller la jeter dans la rivière. « Ne crois-tu pas qu'il faudrait encore ficeler la cassette et apposer quelques cachets de cire ?»« Sois tranquille, répondis-je, cela suffit. Notre prospérité et notre bonheur ne risquent plus rien. Personne autre que toi, et plus tard notre fils, ne connaîtra le secret de la cassette. Après ma mort, mes héritiers pourront, s'ils le jugent convenable, faire ouvrir la boîte et livrer le manuscrit à la publicité. La gloire qui en rejaillira sur mon nom n'aura plus alors le pouvoir de me nuire. » Ainsi s'achève « Feu ma belle-sœur » par Frank R. Stockton.